Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h03 sur RMC, RMC Story, canal 23 de la TNT. Vous êtes dans Estelle Midi et vous êtes toujours en compagnie de Rémi Barré, de Perico Légas, de Pierre Rondeau et de Jérôme Lavrieux. On vous attend bien sûr nombreux au 3216 et sur l'application RMC pour réagir à notre prochain débat qui concerne la proposition d'Aurélien Pradié, candidat à la présidence des LR. Il veut instaurer un impôt sur le revenu pour tout le monde. Bonne ou mauvaise idée? On vous attend au 3216. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC, le zapping. 13h45, la minute conso avec Paul Lassalle. On parlera du bonus réparation. L'État va vous aider désormais à réparer votre électroménager. On peut compter sur l'État pour tout, décidément. À 14h, faut-il sacrifier nos animaux de compagnie pour des raisons écologiques? Production de nourriture, excréments, atteinte à la biodiversité. Les chats et les chiens sont d'énormes pollueurs. À 14h30, RMC s'engage pour vous. Et Amélie Rosic tentera d'aider Sada. Il est chauffeur VTC, il ne peut pas travailler car il n'a toujours pas reçu sa carte professionnelle. Et puis, on vous fera gagner, Coupe du Monde oblige, des boîtes de jeux Super Challenge Foot tout au long de l'émission. Il vous suffira de répondre à une question de cette boîte de jeu et vous repartirez avec.
RMC Estelle Midi.
Et on va tout de suite s'intéresser dans Estelle Midi à la proposition du jour. C'est celle d'Aurélien Pradié, candidat à la présidence des LR. Il souhaiterait que tous les Français, quelle que soit leur situation, payent l'impôt sur le revenu, ne serait-ce qu'un ou deux euros par mois. Aujourd'hui, seuls 44% des Français payent cet impôt. Mais Aurélien Pradié n'est pas le premier à faire cette proposition, Rémi.
Exactement. L'idée régulièrement émise depuis plusieurs années maintenant, à gauche comme à droite, dans son programme présidentiel de 2017 et d'ailleurs également en 2022. Jean-Luc Mélenchon a ainsi promis de généraliser l'impôt sur le revenu en le rendant très progressif grâce à la création de 14 tranches d'imposition au lieu des 5 qui existent aujourd'hui. Il y a 5 ans, le candidat socialiste Benoît Hamon avait fait quasiment la même proposition. Fin 2013, c'est le premier ministre socialiste de l'époque, Jean-Marc Ayrault, qui avait lancé des consultations, finalement jamais abouties, sur la remise à plat du système fiscal français de manière à le rendre plus juste, notamment en fusionnant l'impôt sur le revenu et la contribution sociale généralisée, la CSG. De fait, décider de soumettre des ménage un impôt, c'est une chose, mais s'assurer de la bonne collecte de cet impôt, ça, c'en est une autre. Et c'est la critique souvent émise par ceux qui sont contre ce système d'un impôt universel, parce qu'avec un impôt élargi à plus de Français, la facture fiscale des ménages les plus fragiles ne pourrait pas dépasser quelques dizaines d'euros. Imaginons que quelqu'un qui a pour revenu, 4000 euros par an, ne paierait que 15 ou 20 euros d'impôt, le coût de traitement pour recouvrir ces 15 ou 20 euros serait démesuré par rapport aux recettes encaissées, sans compter qu'en cas de difficulté de paiement, l'administration se retrouverait face à un véritable casse-tête, engager des poursuites coûteuses, ou alors abandonner systématiquement ses créances. Et là, ça serait un très mauvais message adressé à l'ensemble des contribuables.
Alors, pour ou contre l'impôt sur le revenu pour tous, Perico Légas?
L'impôt est universel, c'est un principe philosophique de la République, puisque nous sommes tous libres, les hommes naissent libres et égaux en droit, donc sous-entendu en devoir. Ensuite, il y a la méthode d'application, et si tout le monde payait l'impôt, alors on a inventé le prélèvement à la source. Si déjà tous les salariés, et je suis d'accord pour le symbolique, 1, 5, 10, 15 euros, déjà tous les prélèvements à la source, il n'y a pas de procédure, il n'y a pas de recours. Alors ensuite, il y a ceux qui ne sont pas salariés, je fais confiance au fisc français pour l'administration fiscale pour localiser les gens qui auraient des moyens. Mais par principe, je trouve cette mesure absolument nécessaire et urgente. Je comprends pas qu'elle ait pas été appliquée. Je comprends les restrictions. Prélever 10 euros. Mais déjà pour la santé mentale républicaine d'un citoyen français ou d'un résident en France, savoir qu'il participe à cette contribution, ça s'appelle un contribuable, c'est une contribution, on paye un loyer à la Maison France, même si c'est simple. Je pense que c'est très important, et pour ceux qui payent, et ça serait une manne énorme malgré tout dans la fiscalité française. Ça résout pas tout.
Oui, mais quand par exemple tu vis d'allocation, concrètement, l'État te reprendrait ce qu'il te verse. Enfin, c'est un peu...
En fait, mais comme un retraité, pourquoi pas. Non, mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais aller contre ça, c'est faire preuve d'une mauvaise foi et d'un mauvais esprit politique qui me choque. Allez-y, mais je comprends les risques.
Mais le symbole est fort. Jérôme est opposé à cette proposition. Je me permets juste avant de laisser la parole, de rappeler l'histoire de cette mesure. C'est pas une invention du camp républicain ou même initialement de la gauche socialiste dans les années 2000. Ça remonte aux années 70 avec l'économiste américain Milton Friedman. C'est une proposition, tu dis, libérale. Cette proposition est profondément libérale. La considération et les concepts de l'impôt négatif et du revenu universel, ça émane directement de la doctrine libérale.
C'est toi le libéral en la matière.
Non. Vous êtes des dérogateurs.
Déjà, je ne juge pas, je présente les faits et ensuite je laisserai Jérôme critiquer. Mais ce qu'il faut bien comprendre dans ce concept, c'est une simple mesure de simplification administrative.
C'est-à-dire
que tout le monde paye l'impôt à un taux unique, un prélèvement unique, et qu'ensuite, grâce au prélèvement de cet impôt, on finance un revenu universel. Voilà. C'est ce qu'il dit d'ailleurs dans la proposition, c'est un impôt pour toutes et tous, pour financer un revenu universel. Oui. Premier élément, ce serait de dire que comme on a une dégressivité de la ponction, de l'impôt, impôt négatif, les riches paieraient un impôt, mais auraient un revenu universel, ce revenu universel qu'ils toucheraient de façon automatique, serait directement payé par le fait qu'ils payent l'impôt. Alors que les plus pauvres, eux, paieraient un impôt, mais finalement, le paiement sera compensé par le versement d'un revenu universel. Donc, il y a simplement une simplification totale, un versement automatique à tous les Français, tous les citoyens, tout le monde paye l'impôt, et tout le monde touche un revenu universel. Donc ça permet de simplifier administrativement, simplifier fiscalement. Par exemple, en 2017, Benoît Hamon, quand il avait fait cette proposition socialiste, on avait chiffré à ce qu'on puisse faire à minima 4 milliards d'euros d'économies d'impôts, enfin de dépenses administratives, 4 milliards d'euros d'économies par an à travers la simplification. L'autre élément sur cet impôt universel et ce revenu universel, ça serait d'éviter à ce que des gens qui pourraient toucher des aides sociales, n'y touchent pas. Il y a plus de 50% des gens qui auraient droit à des aides sociales, qui par absence d'information, par ignorance ou par absence de volonté, ne touchent pas ces aides. L'universalisation, non pas de l'impôt, mais des aides, financées par un impôt unique, permettrait de simplifier cette voie-là.
Il y a que 44% des Français, quand même, Jérôme Lavrieux, qui payent l'impôt sur le revenu.
Est-ce que ça ne serait pas...
Ah bah si, je vous le dis, l'impôt sur le revenu, 44% des Français.
Non. Le revenu.
Bah si.
Non.
Ah bon ?
Bah si.
Déjà, une petite remarque, c'est juste pour mon ami Perico, une petite carte postale. Il nous dit, moi je suis pour que tout le monde paye l'impôt. En France, tout le monde paye des impôts.
Oui, la TVA, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec l'impôt sur le revenu.
L'impôt
sur le revenu.
L'IRPP. Je dis bien l'IRPP.
Vous n'avez pas dit ça. L'impôt sur le revenu qui rapporte le plus à l'État, que toute personne qui a un revenu, que ce soit un revenu du fruit de son travail, c'est-à-dire un salaire, du fruit d'un placement, ça s'appelle la CSG. C'est un impôt sur le revenu, c'est le plus efficace, tout le monde le paye. Tout le monde le paye, la CSG, même les retraités payent cet impôt sur la CSG. C'est le plus efficace. Après, sur l'impôt sur le revenu, qui est un autre impôt sur le revenu,
bien sûr.
Tout le monde fait une déclaration d'impôt.
C'est vrai.
Personne n'est, tout le monde est assujetti à l'impôt sur le revenu. Il y a juste des gens, parce qu'ils n'ont pas de revenus suffisants, qui sont dispensés du fait de payer une somme, même une petite somme.
Oui.
Mais sur les faits, ces gens-là, même quelqu'un qui est au SMIC, qui n'est pas imposable sur le revenu à la fin,
il a déclaré.
Et d'une autre manière, sur son salaire, il a payé la CSG.
Oui, mais le symbole n'est pas le même et tu le sais très bien.
Mais le symbole n'est pas le même.
Mais non, mais personne ne sait.
Le plus.
Oui, mais peut-être, mais personne ne sait qu'il est ponctionné de la CSG. Enfin, j'ai assez
Si une personne n'est pas au courant qu'en allant acheter un téléviseur ou un fauteuil ou une râpe à fromage, il paye 20% d'impôt.
C'est la TVA, mais ce que je veux te dire, c'est que là, en fait, symboliquement, tu verrais que chaque mois, tu payes 1 ou 2 euros. Et à mon sens, ce qui serait bien quand même, c'est que l'État dise où va ces 1 ou 2 euros. Parce qu'en fait, le gros problème aujourd'hui,
il va aller payer les fonctionnaires qui vont percevoir le 1 ou 2 euros et qui vont créer un déficit
supplementaire. Mais non, mais que l'État réexplique, en fait, où va l'impôt aujourd'hui. En fait, personne ne sait où va son argent. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'acceptation à l'impôt.
Ce qui est dit dans la proposition, c'est que l'universalisation de l'impôt permettrait de financer un revenu universel. Après, j'entends parfaitement tes points.
L'universalisation de l'impôt, c'est la CSG.
Oui, bien sûr.
De
dire que symboliquement,
si tu es très riche et que tu fais des placements défiscalisés, tu payes la CSG.
Au-delà de ça, dans l'acceptation du revenu universel, souvent, on va entendre dire les gens, si j'ai de l'argent, pourquoi je devrais toucher un revenu universel ? C'est-dire que finalement, admettons...
Ça, c'est un autre départ,
mais justement, l'impôt universel permettrait de financer le revenu universel. Et quelqu'un, par exemple...
Donc tu rends l'argent ?
Exactement, c'est l'impôt négatif.
Bah non, on le prend pas.
C'est l'impôt négatif. Mais oui, c'est pour la, non, mais c'est pour la simplification.
Oui,
la simplification, l'automatisation permettrait de faire des économies. Tout le monde paierait, mettons, 400 euros en plus. On verserait les 400 euros à ceux qui en auraient besoin. Et ceux qui n'en ont pas besoin, on prélèverait les 400 euros.
C'est pas le débat. C'est une très bonne idée. Moi, je suis pour une participation contributive du salarié.
Moi,
c'est un principe philosophique.
Mais la contribution sociale généralisée, c'est la contribution de chaque salarié.
Tu ne vois pas une feuille.
Oui,
c'est une charge sociale.
C'est une charge sociale de plus. C'est une charge sociale de plus.
Vous avez vu la ligne sur votre feuille d'impôt?
Oui, elle fait très mal. Elle fait très mal.
Oui, mais parce que justement, on a une feuille d'impôt.
Mais la feuille de les frais de collecte, on a pour 40 euros de frais de collecte. Enfin, et on va demander à quelqu'un de payer.
Tout ça est virtuel. Tout ça est virtuel.
Alors, on est avec Gilles qui nous appelle de Saint-Rémy en Saône-et-Loire. Bonjour Gilles.
Bonjour Estelle. Bonjour à toute l'équipe.
Gilles, est-ce que vous seriez pour que tout le monde paye l'impôt sur le revenu, même 1 ou 2 euros?
Mais oui, mais comme je disais à Thomas, ça fait des mois que je vous écris ça. Ah pour moi, c'est la porte de sortie. C'est génial.
Sortie de quoi?
Comment le prendre comme ça? Chaque Français qui gagne de l'argent doit contribuer à hauteur de ce qu'il a gagné, un pourcentage. Mais il faut aller plus loin dans le raisonnement. C'est-à-dire que si on demande aux RMistes de verser, par exemple, 1 euro par mois sur ce qu'il a gagné à la fin du mois. Mmh. Si on demande aux SMICards de verser 10 ou 15 euros par mois sur ce qu'il a gagné à la fin du mois. Il faut demander aux millionnaires et aux milliardaires, et pour ça, il faut avoir le courage et le culot de foutre les avocats fiscalistes au feu avec leurs bouquins, pour que tout le monde paye en fonction et en proportion de ce qu'il a gagné. Donc stop les niches, stop l'évasion fiscale, stop les dégrèvements de tout ce qu'on veut là.
Et stop la progressivité aussi alors.
Bah si, justement.
Il faut un taux unique.
Il faut de la progressivité.
Mais là, vous êtes. Alors attendez, Gilles. Est-ce que vous êtes pour un taux unique? C'est-à-dire, j'ai n'importe quoi, mais chacun paye 1%, j'ai un n'importe quoi, mais 10% de ce qu'il gagne? Ou alors, est-ce que vous êtes pour la progressivité?
Non, il faut un taux proportionnel. C'est-à-dire que le SMICard, il va donner, par exemple, 1% de ce qu'il a gagné. Et celui qui gagne 4, 5 000 euros, eh ben, il va donner 10%. Et ainsi de suite, celui qui gagne beaucoup plus va donner un peu plus.
Et l'effet de seuil, effectivement.
Il y a le cas de l'impôt sur le revenu.
Attendez, laissez-moi terminer.
Mais tout le monde ne le paye pas.
Vous parlez beaucoup et pour une fois qu'on peut parler à la radio, on aimerait bien pouvoir...
Alors écoutez, allez-y, restez jusqu'à 15h.
On revient tout à l'heure, vous inquiétez pas.
J'aimerais bien, j'adorerais, j'ai plein de choses à vous dire. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à s'échapper de l'impôt. Vous voyez, c'est ça le truc. Alors nous, les classes moyennes, on donne. Les classes inférieures ne donnent pas, profitent. Et les classes très supérieures ne donnent pas en fonction.
Non mais Gilles, vous pouvez pas dire que les classes moyennes ne donnent pas et profitent. Enfin, je veux dire, les classes inférieures ne donnent pas et profitent. Enfin, c'est pas tout à fait ça quand même, parce que j'imagine que les classes inférieures, elles aimeraient bien être moyennes, justement, vous voyez.
Ben oui. Ben alors, je vais vous dire franchement, des fois, il faut bien réfléchir avant d'être moyen.
Oui, ben parce que vous n'avez droit à rien, parce qu'il y a l'effet de seuil. Je suis d'accord.
Les classes que vous appelez les classes inférieures, déjà le terme est un peu compliqué. À chaque fois qu'elles sortent de chez elles et qu'elles consomment quelque chose, elles payent un impôt. À chaque fois qu'elles payent leur facture d'électricité, elles payent un impôt. C'est 60% de la facture d'électricité. À chaque fois qu'elles font un litre d'essence, elles payent 64% d'impôt.
Mais Jérôme, nous aussi. Seulement, moi, j'aurais été prélevé d'un impôt direct en plus de ça.
Mais quelqu'un de la classe inférieure, comme vous dites, je le mets avec tous les guillemets parce que.
Oui, moi aussi, j'aime pas ce terme.
Il ne faut pas que ce soit
juste
péjoratif.
Bah oui,
alors, non, attendez, mais c'est aussi attendez, con comme terme. Je vais vous dire un truc. Si les salariés qui gagnent à peine le SMIC, ils payent la CSG.
Oui, encore une fois, mais là ce qu'on veut, c'est un truc symbolique que tout le monde voit. C'est comme quand tu vas chez le médecin. Aujourd'hui, tu payes plus rien. Ce serait peut-être pas mal d'expliquer, en fait, pourquoi tu payes. Tu vois, aujourd'hui,
par exemple, quand tu te fais opérer à l'hôpital, tu sais pas combien ça coûte. C'est un symbole à la con.
Mais non, c'est pas un symbole à la con. Mais je suis pas d'accord. Enfin, ça, c'est une idée, c'est un symbole à la con.
C'est aussi l'acceptation.
Liberté, égalité, fraternité.
Je suis d'accord que tu ne sois pas d'accord.
Liberté, égalité, fraternité.
Après, je pense que Gilles, je sais pas s'il va réagir, mais je pense que Gilles n'est pas sûr et focus sur les classes inférieures et précaires. Il y a aussi, je le rejoins là-dessus, la lutte contre la fraude et l'évasion fiscale. Oui, mais justement, il y a aussi le fait de simplifier la fiscalité permettra aussi.
CSG, il n'y a pas de niche fiscale.
Ponctionner directement sur les classes aisées.
Merci Gilles, en tout cas, d'avoir été avec nous. Gilles. Voilà, Gilles, fidèle auditeur. Gilles, vous aimez le foot?
Ouais, un petit peu. Pas trop, un petit peu.
Bon. Gilles, je vais vous poser une question facile et vous pouvez repartir avec une boîte de jeux. D'accord? Écoutez bien. Alors, je cherche la plus facile. Attendez. Ouais, j'en ai une toute simple. Là. Gilles, quel pays est le seul à avoir participé à toutes les phases finales de Coupe du Monde?
Le Brésil.
Bien joué, Gilles. Bravo. Gilles qui repart avec une boîte de jeux super challenge foot.
Vous avez bien fait d'appeler Gilles. Ouais,
bravo Gilles et merci d'avoir été avec nous, notre invité.
C'est pour tous.
Oui,
et la boîte est nette d'impôts. Hein.
Oui, voilà, on vous l'offre. Et vous n'aurez même pas un euro à payer dessus, Gilles. Philippe Bruno est notre invité sur ce débat. Il est président du Cercle des fiscalistes. Merci Philippe Bruno d'être avec nous.
Bonjour.
Ma question est simple, Philippe Bruno. Est-ce qu'il faut que tous les Français payent l'impôt sur le revenu?
C'est déjà le cas. Donc, j'ai été atterré lorsque l'on m'a envoyé ce matin la proposition de M. Pradic, qui propose l'instauration d'un impôt sur le revenu universel qui existe déjà sous la forme de la CSG.
Oui, c'est ce qu'on a rappelé. Mais en fait, ce
merci,
que veut...
Merci, merci.
Non, mais d'accord, mais ce que veut Aurélien Pradier, en fait, c'est que en fait, tout le monde en France reçoive chaque mois une petite feuille mettant, voilà, vous êtes prélevé de l'impôt sur le revenu d'un ou deux euros, qui sache qu'il paye l'impôt sur le revenu, vous voyez.
Ben ça, c'est un autre sujet.
Ben, c'est le même.
Ah non.
C'est le sujet. Mais si, c'est le sujet du symbole, en fait.
Ben oui, d'accord. Mais c'est pas un sujet de créer un. Alors, c'est pas ce que dit M. Pradier. Il lui propose d'instaurer, de créer un impôt sur le revenu universel. Je lui rappelle juste qu'il existe déjà, d'une part. D'autre part, que c'est même.
Non, monsieur. C'est pas un impôt.
La CSG?
Si. Mais si, c'est un impôt, Perico.
C'est une contribution.
Un symbole, Perico.
Je peux parler?
Oui.
Je ne sais pas qui vient de m'interrompre en me disant que c'est
Perico,
pas un impôt.
Perico, les gars, excusez-moi, monsieur.
Alors, je vous en prie. Le Conseil constitutionnel, lui, considère que c'est un impôt et déjà depuis de longues années. Donc, c'est un impôt qui, effectivement, est orienté pour le financement de la sécurité sociale, mais c'est un impôt. Deuxièmement, il rapporte beaucoup plus que l'impôt sur le revenu, qui rapporte à peu près 80 milliards lorsque la CSG en rapporte à peu près 120.
Oh, bah, supprimons l'impôt sur le revenu.
Le taux, la question qui se pose, mais que vous posez intuitivement, est de savoir, est-ce qu'il est bon que dans une démocratie, on se rende compte ou pas de l'impôt que l'on paye?
Oui, c'est exactement ça, Philippe Bruno.
Voilà, c'est ça la question.
Oui, en fait,
si on creuse un peu, si on veut aider M. Pradi à articuler son raisonnement, en fait, elle consiste à articuler en fait donc deux concepts différents. Le premier, qui est un impôt universel sur tous les revenus, je le rappelle, qui existe déjà, et d'autre part un mode de distribution des sommes qui ont été collectées sous forme d'une allocation unique qui, elle, en revanche, reste à créer, parce qu'elle n'existe pas.
Oui, tout à fait.
Oui,
oui. Oui, bah, bien sûr, oui.
Oui, d'accord. Mais c'est ça le problème.
On peut trouver ça bien.
Monsieur Pradier ne nous dit rien. Il dit juste qu'il faut.
Mais c'est pour ça qu'on l'aide.
Voilà.
On contribue à éclaircir son propos.
Lui, il existe. Il existe. Et je rappelle quand même qu'on paie. Alors après, l'autre sujet sur lequel je voulais aussi intervenir, c'est que dans les démocraties, en France en particulier, on fait de plus en plus en sorte que l'impôt que l'on paye ne soit pas trop visible et soit en tout cas le plus indolore possible. C'est pour ça qu'on a de plus en plus, on utilise de plus en plus ce que l'on appelle des flat tax, c'est-à-dire des impôts qui sont au même taux pour tout le monde et qui sont prélevés à la source, qui sont non déclaratifs. Je rappelle que la TVA, vous la payez sans vous en rendre compte. La plupart des taxes sur l'essence, vous les payez sans vous en rendre compte, etc., etc. Donc, en fait, il y a très peu d'impôts qui soient progressifs et qui soient déclaratifs.
L'impôt sur le revenu.
Non, parce qu'avec le prélèvement à source, tu ne sais plus combien tu as payé.
Mais si, tu le vois sur ta feuille de paye. Je veux dire que sur ta feuille de paye, quand tu vois le montant brut,
non, mais ce n'est pas la même ligne. Jérôme Lavrieux, la CSG, c'est un pansement qui a été inventé pour combler le trou des charges sociales françaises. Voilà. Ce n'est pas un impôt sur le revenu où tu contribues au fonctionnement de la République. Les mots d'un mot. Liberté, égalité. Liberté, égalité. Liberté, égalité, fraternité, égalité. Non, alors virons égalité des frontons.
Et donc, ils ne voient pas forcément la CSG, je suis désolée.
Mais sur un placement, tu payes de la CSG.
Mais je ne parle pas de placement. Si tu
n'as pas les revenus, tu n'as pas de placement, je pense.
Ben oui, voilà. Si tu es au RSA, tu n'as pas de placement, mais c'est que tu fais de l'optimisation fiscale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, si par exemple, tu as eu un accident de la vie, voilà, tu étais au chômage, sur tes allocations, tu ne le vois pas. Tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas. Tandis que là, le symbole, c'est que tu sais que t'es contributif. C'est ça en fait, c'est ce que disait Philippe Bruno, c'est l'impôt. C'est qu'aujourd'hui on paye des impôts, personne ne le sait. Le seul impôt que tu, où vraiment ça se voit et que tu le payes, c'est l'impôt sur le revenu.
C'est éthique. Je comprends pourquoi la droite revient pas au pouvoir avec ces genres de raisonnement.
Inversement, si vraiment tu as envie que ça soit vraiment dans le déclaratif et dans la conscience de l'impôt, faisons comme les Américains. Les Américains, dans les magasins, il n'y a pas la TVA. Et la TVA, elle apparaît à la caisse.
Les prix sont affichés hors taxe.
Les prix sont affichés hors taxe et t'arrives à la caisse. Ah oui, j'ai payé tant de TVA.
Et là, tu le vois bien.
Là, tu le vois.
Quand tu regardes ton ticket de caisse, tu le vois bien aussi.
Tu vois la TVA que tu payes à l'État fédéral et à l'État dans lequel tu résides.
Comme dans les restaurants espagnols.
Rémi, vous avez plein de
de très nombreux messages, comme celui par exemple qui nous parvient à l'instant de Jojo. Tiens, on voyageait un peu parce qu'il vit au Danemark.
Ah, très bien.
Il nous écoute, donc c'est bien,
On a le contrat pour la Coupe du Monde.
Exactement. Je vis donc au Danemark, nous dit Jojo. Ici, l'impôt est à hauteur de 47% pour tout le monde. Mais en revanche, les salaires au Danemark par rapport à la France
sont plus élevés.
Beaucoup plus élevés. Voilà. Et c'est surtout la répartition de l'argent ainsi récolté qui fait la différence avec la France ici. Tout marche beaucoup mieux au niveau des services publics.
Oui, et surtout, je pense qu'au Danemark, en fait, les gens sont au courant d'où part leur argent lorsqu'ils payent l'impôt. Et ça, c'est quand même important. Et c'est un vrai problème en France.
Le système danois aussi, vite fait, mais en France, on nous dit on a droit à plein d'aides. En France, le Danemark aussi est très généreux d'un point de vue social. Et peut-être, certainement, beaucoup plus efficace qu'il ne se passe.
Et ils sont combien d'habitants?
Moins que nous. On va remercier Philippe Bruno, notre invité sur ce débat, président du Cercle des fiscalistes. Et on va voir ce qu'a donné la consultation sur notre compte Twitter, @EstelleMidi. Chaque Français doit payer un impôt sur le revenu, pour ou contre?
Pour, c'est le pour qui l'emporte, avec 64% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux.
Bon républicain, de bons républicains.
Mais écoutez, on verra ce que ça donne pour Aurélien Pradier.
C'est
peut-être une bonne nouvelle pour Aurélien Pradier avant l'élection à la présidence.
Je suis pas sûr que ça suffise.
Oui, ça c'est pas sûr non plus. Dans un instant, le zapping, le meilleur des RMC, on se demandera s'il faut réduire les indemnités chômage. En tout cas, les syndicats sont vent debout contre le projet du gouvernement. Les films favorisent-ils la violence? Ça, c'est à propos de la lettre de Christian Estrosi à Netflix. Et puis, est-ce que vous allez profiter du Black Friday? C'est vendredi, tout simplement. On en parle dans un instant sur RMC. À tout de suite.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h29 sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi avec Rémi Barre et Perico Légas, Jérôme Lavrieux et Pierre Rondeau. Et tout de suite, c'est l'heure du zapping, le meilleur d'RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va commencer avec un extrait d'Apolline Matin ce matin. Faut-il réduire les indemnités chômage? Le gouvernement présente aujourd'hui une réforme avec le projet de moduler la durée des indemnités en fonction du taux de chômage. Avec cette nouvelle formule, certains craignent d'être radiés, à l'image de Christine. Elle est ancienne directrice commerciale et elle a bien du mal à retrouver un emploi.
C'est pas qu'il n'y a rien pour moi, c'est qu'on ne veut pas de moi. Vous êtes simplement un cadre sup de 59 ans, un peu pathétique, qui essaye de trouver un job. En gros, j'étais trop vieille, trop qualifiée et trop chère. Depuis un an, je souffre et j'en ai marre qu'on considère les gens qui sont en recherche d'emploi comme des feignants. Le chômage, c'est pas un choix, c'est un tsunami qui vous frappe. Vous recevez, mais pleine tête, quelque chose qui vous fait du mal, qui vous détruit.
Et concrètement, cette réforme, Rémi, c'est un coup de massue pour les chômeurs.
Hein. C'est une baisse de 25% de la durée d'indemnisation pour tous les demandeurs d'emploi ouvrant des droits à partir du 1er février. Donc ça rentrera en compte à partir de ce moment-là. Un exemple très concret, si vous êtes au chômage, vous avez le droit à 12 mois d'indemnisation, vous n'aurez plus que 9.
Alors, peu.
Ah oui, il y a une durée minimale, on peut pas aller
On a cotisé toute sa vie.
Ouais, et on peut pas aller en dessous de 6 mois, ça c'est la règle et grâce à cette mesure le ministre du Travail Olivier Dussopt dit espérer le retour à l'emploi de 100 000 à 150 000 personnes.
C'est automatique. Si on réduit la durée des indemnisations de 12 à 9 mois, quand on dépasse ces 9 mois, on est radié des listes. Donc
un chômeur sur deux qui passe sur les listes.
C'est pas une création d'emploi.
Les chiffres Pôle emploi, tu auras alors tu as du BIT et les chiffres de Pôle emploi.
Non, t'es inscrit à Pôle emploi, mais sans indemnité.
Sans être indemnisé, donc t'es comptabilisé dans les chômeurs. Ça n'a rien à voir avec la catégorie de
comptabilisation. Ce que je veux dire, c'est qu'au-delà de ça, quand bien même il y a une question de méthodologie selon l'INSEE, selon Pôle emploi, Ce qui est sûr, c'est que, premier élément, et c'était dit dans le zapping et dans l'extrait, nous ne sommes pas chômeurs par choix. Il n'y a pas de chômage volontaire. C'est pas parce qu'on touche tant d'indemnités chômage qu'on va rester au chômage. Les gens, pour l'immense majorité, d'ailleurs, une étude Pôle emploi a montré que 2% des gens allaient jusqu'à la fin des allocations. L'immense majorité ouais. veut travailler. Toucher des allocations, en plus d'être un fardeau social, c'est pas rentable économiquement. Certes,
oui, mais le gouvernement te dit, il y a du boulot. Si tu veux travailler, il y a du boulot.
Moduler sur la conjoncture. Mmh. Mais quelle définition conjoncturelle? 7%, 8%, 9%. Quel chômage? Chômage structurel, chômage conjoncturel, chômage frictionnel. C'est extrêmement compliqué. Là, on le dit en dessous de 9% ou au-dessus de 9%. Oui. Sauf que, on peut, je prends les Américains par exemple, avoir un taux de chômage de 5%. Plein emploi, très bien, avec un taux de pauvreté extrêmement élevé. Des salariés précaires. Est-ce qu'on préfère des salariés précaires? C'est un choix de société.
C'est des hypothèses, mon cher Pierre. Il y a deux choses. J'étais favorable au fait qu'on impose un temps minimum de travail avant d'avoir le droit. 4 mois, maintenant c'est 6 mois avant de toucher le droit au chômage, parce qu'il y avait, je suis désolé, tu as aujourd'hui en France des gens, notamment dans la jeunesse, qui se font un plan de chômage et non pas un plan de carrière, et qui travaillent le temps d'avoir des droits.
Donc on va attaquer ceux qui respectent.
Mais bien sûr.
Voilà.
Là, je ne suis pas sûr que cette mesure crée de l'emploi. Voilà. Si j'avais la certitude que ça crée de l'emploi, je dirais c'est douloureux, c'est peut-être un peu violent, mais ça va créer des emplois. Je n'ai aucune certitude du mécanisme, j'ai même plutôt tendance à penser que ça ne créera rien. Ça fera des économies dans les caisses de l'État. Voilà. Par contre, augmenter le temps de travail pour avoir des droits, ça, je pense, ça serait beaucoup plus efficace pour créer des emplois.
Est-ce que c'est une bonne mesure de l'État, ça, de taper fort sur les chômeurs, Jérôme Lévrieux?
Comme vient de le dire Pierre, seuls 2%, c'est le chiffre qu'il a donné,
vont au bout des allocations.
Donc en fait, la mesure va taper personne. Parce que ça veut dire que la plupart des gens retrouvent du travail avant d'aller au bout de leur indemnité. Là, pour l'instant, c'est 12 mois. On aurait pu imaginer 36 mois ou 50 mois. On a dit 12, on va rabaisser à 9 temporairement parce que le taux de chômage commence à commencer à baisser fortement.
Ouf.
Donc, objectivement, ça va pas toucher grand monde. Sauf que ça a un effet psychologique.
C'est ça.
C'est de dire, attention, c'est pas un congé chômage. C'est que vous avez une ardente obligation de trouver le plus vite possible. Parce que,
ou d'accepter.
Ticking, comme diraient les Américains ou les Anglais, l'horloge tourne, donc il faut se dépêcher. Et même s'il y a un job qui vous convient pas forcément, il faut le reprendre.
Et voilà.
Il faut le reprendre.
Ça.
Parce que ça va remettre en jeu.
Ça, c'est louable.
Vous allez réengranger des droits au chômage pour l'avenir. Donc il faut le reprendre. Vous pouvez pas attendre. J'ai 10 mois de chômage.
Mais t'as des métiers. Si aujourd'hui t'es dans la restauration, tu peux retrouver demain. Mais par exemple, je perds mon job, ça va être plus compliqué.
Un métier que je connais bien parce que j'ai beaucoup de ma famille qui y trouve dedans. Pour l'instant, ils trouvent plus. Parce qu'après le Covid, tout le monde est parti.
Oui, c'est ça.
Et ils veulent pas revenir dedans en disant, pour l'instant, je suis au chômage ou j'essaie de trouver autre chose. Je suis désolé, à un moment, la solidarité commune des uns et des autres, c'est pas de permettre juste à tout le monde de trouver le boulot qu'il veut, au salaire qu'il veut, au moment qu'il veut.
Après, c'est une démarche.
Les aider quand ils ont pas de travail.
Oui,
s'il y a du travail disponible, il faut le faire. Il y a quand même plusieurs centaines de milliers d'emplois où les entreprises n'arrivent pas à recruter.
Bien sûr.
Mais dans l'hôtellerie, ils ont augmenté de plus de 20% le SMIC hôtelier. Ils n'arrivent pas à le faire.
C'est un rattrapage.
Je sais que c'est un rattrapage. Mais en la matière, la solidarité, elle doit s'adresser vis-à-vis de ceux qui n'arrivent pas réellement à trouver de travail. Ceux qui vont au bout du dispositif sans trouver de travail, ils peuvent avoir l'allocation spécifique de solidarité qui permet de les prendre en charge parce qu'il y a des raisons pour lesquelles ils n'ont pas trouvé de travail. Ça existe. Ça n'est plus le fruit d'une cotisation, c'est le fruit de la solidarité nationale.
Enfin, en tout cas, aujourd'hui, Péricou, il y a un seul syndicat qui a l'air d'approuver cette mesure, c'est le MEDEF. Tous les autres syndicats vont debout quand même.
Alors, de syndicats de salariés, non, de syndicats. Oui, vous avez de l'humour. Effectivement, le MEDEF. Puis le MEDEF, je peux vous dire, ça fait longtemps qu'il le demande. Donc c'est bien le gouvernement du MEDEF qu'on a. Alors je pensais que c'est pas la CGT qui est au pouvoir, c'est bien le MEDEF.
Non, ça on avait compris, c'était pas la CGT.
J'ai fait ce petit raccourci.
Du MODEM ou du MEDEF, j'ai pas entendu.
Très bonne question. Quelquefois, c'est la même chose, n'est-ce pas?
Allez, dernier extrait dans ce zapping, très rapidement, on est très en retard. Allez-vous profiter du Black Friday? C'est dans Apolline Matin, ce matin, ce fameux vendredi noir inventé aux États-Unis. C'est le jour, bien sûr, où les commerçants cassent leurs prix afin de nous faire profiter de bonnes affaires. Décrié par certains, d'autres n'hésitent pas à en profiter, à l'image de ces Marseillais rencontrés par Lionel Dion.
C'est les cadeaux pour Noël. On profite des promotions vu les temps qui courent. C'est devenu assez cher. L'inflation, elle sent bien sur les vêtements. Tout a augmenté. Après, les nouvelles générations, ils aiment bien les marques et des prix qui sont vraiment hauts. Donc, on cherche les promotions.
Un Black Friday en deux semaines, c'est vrai que c'est pas vraiment du Black Friday. Il n'y a pas de grosses réductions par rapport à avant, quoi. Quand il y avait le Black Friday, on savait très bien que c'était des grosses remises. C'est vrai que c'était un peu plus attractif.
Pirico, vous avez commencé à faire votre liste pour le Black Friday ?
Un jour de honte de plus pour la République. Qu'on accepte ça, voilà.
Donc on accepte
c'est,
ça.
C'est ignoble. Non, mais c'est ignoble. C'est l'avilissement du mercantilisme.
Bah, pas du tout, c'est faire des
bonnes affaires. Non, c'est sorti.
La République, il ne faut rien. Hein.
Surtout oui, qu'aujourd'hui.
Pour une fois, les
si, si, elle accepte.
Rien.
Si, si. On accepte ce genre de prestations, ce genre de promotions. On doit aujourd'hui baisser, on doit baisser la consommation inutile. Ah. Et là, c'est l'encouragement de la consommation inutile qui fait importer des produits qui viennent d'Asie, qui détruisent des emplois, qui polluent la terre. Le Friday est un crime contre la moralité. J'espère être poursuivi.
Excusez-moi, mais moi je vais quand même en profiter. Ne vous en déplaise.
Si vous avez une petite affaire pour moi.
On parle conso, ça va vous plaire. Dans un instant, la minute conso avec Paul Lassen, on parlera du bonus réparation. L'État, qui est quand même très sympa, va vous aider à réparer votre électroménager. A tout de suite dans Estelle Midi.
RMC, midi 14h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h42 dans Estelle Midi. C'est l'heure de parler conso avec Paul Lassen. C'est la minute conso.
RMC, Estelle Midi,
la Minute Conso.
Voilà, Paul qui remplace Stéphane Pedrazzi pendant toute la semaine. Stéphane qui est en vacances. Et Paul, vous nous arrivez avec une très bonne nouvelle pour le portefeuille des Français. Le gouvernement vient d'annoncer la mise en place d'un bonus réparation. Mais qu'est-ce donc ?
Oui, à partir du 15 décembre prochain, les consommateurs et consommatrices, nous, donc, recevrons cette aide pour réparer les appareils électriques et électroniques plutôt que de les remplacer. Il y a un vrai enjeu parce qu'aujourd'hui, on estime à 10 millions le nombre de réparations réalisées chaque année en France, alors qu'on compte 1 milliard 500 millions d'équipements électriques et électroniques en circulation. Alors pourquoi le gouvernement s'empare de cette cause ? Pour deux raisons. La première, c'est l'écologie. Si on répare, on ne jette pas et donc on ne rachète pas de nouvel équipement.
Logique.
Un enjeu qui permet de parler d'écologie positivement, a dit Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique. Mais la deuxième raison, et c'est surtout pour ça que le gouvernement s'est impliqué, ça va aider les Français financièrement. Pour nous, les consommateurs, ça serait une aide non négligeable, puisque d'après l'entreprise Écosystème qui gérera ce fonds d'aide, l'idée, c'est que ce bonus représente environ 20% du prix de réparation totale.
En gros,
vous faites réparer un frigo à 100 euros, eh bien vous ne paierez que 80.
Alors justement, vous parlez du frigo, mais ça concerne tous les objets électriques et électroniques du quotidien, c'est-à-dire une PS5, un grille-pain.
Voilà, absolument. Mais avant tout, première règle, si votre équipement est encore sous garantie, pas d'aide.
Bah, normal.
Ce qui paraît logique. Pour le reste, il y a plus d'une trentaine de catégories différentes sur lesquelles vous pourrez utiliser ce bonus. Évidemment un montant qui va varier selon ces catégories. Par exemple, pour machine à café à filtre, fer à repasser, bouilloire grille-pain, c'est 10 euros. Pour 15 euros, c'est l'aspirateur, la perceuse visseuse, le home cinéma, le vélo, la trottinette.
Ah bah moi, je vais les tomber en panne.
Vous parliez de PS5, les consoles et les enceintes, les choses un peu connectées, 20 euros. 25 euros pour un lave-linge, 30 euros pour une télé, et enfin 45 euros pour un ordinateur portable. Alors ça, c'est pour tout de suite, mais ça va évoluer. À partir de 2024, on aura des nouveaux produits, les friteuses, les imprimantes, les robots de cuisine ou les micro-ondes.
Bah, dis donc, on a hâte.
Oui, on a hâte. Hein,
sur tomber en panne de friteuse, c'est embêtant.
Ah bah, oui. En plein hiver, là.
Et en 2025, il y a encore des trucs ou pas ?
Oui, nouvelle salle de produits, les climatiseurs mobiles, les sèche-cheveux et les ventilateurs. Donc, on va faire une aide pour les climatiseurs mobiles.
Non, mais c'est extraordinaire. Mais alors, attendez, cette aide, elle sera ciblée ou tout le monde pourra en bénéficier ? C'est-à-dire que moi, je casse mon sèche-cheveux, je vais aller appeler l'État. Bonjour, est-ce que je pourrais bénéficier de l'aide ?
Je mets 15 euros.
Vous pourrez, Estelle, et ça sera plus pratique que ça, parce qu'il n'y aura pas de démarche particulière à faire. Je vous explique. En effet, le bonus, il sera déduit directement de la facture de réparation, mais il y a tout de même une condition. Il faudra se rendre chez un des réparateurs qui va bénéficier du label CaliRépar, un label accordé pour 3 ans, qui est décerné par des organismes certificateurs. C'est ce que nous dit l'État, donc qu'est-ce que c'est ? Ça, on ne le sait pas. Transparence des prix. Donc, ça sera mis en place le 15 décembre, dans un peu moins d'un mois. Pour l'instant, il y a seulement 500 réparateurs en France qui peuvent attribuer.
C'était ma question. Est-ce qu'il y a suffisamment de techniciens pour pouvoir tourner?
Bien sûr. Alors, que non, c'est comme les bornes électriques dans les voitures.
Donc ils sont 500 aujourd'hui. Le but en 2023.
Dans 500 sur toute la France.
Donc ça va créer des emplois.
Moi, si je dois aller à Périgueux pour aller faire remplacer mon réparer mon sèche-cheveux, c'est un peu loin.
Non, mais la raison.
Ou à Limoges.
Il y en a 500. Ils en visent
Limoges.
Alors est-ce que ça va créer des emplois?
Non.
C'est aussi l'idée. C'est des gens.
Ça va créer des impôts, pas des emplois.
Non, mais des gens vont
peut-être vouloir faire la réparation. On va créer des richesses.
Et vous êtes critique. Vous êtes critique.
On apportera moins de merde de Chine.
La gaz, excusez-moi. Et puis pardon, non mais excusez-moi, mais il y a un moment où aussi, il faut se dire que si vous avez un vieux sèche-cheveux il y a 22 ans, il consommera plus qu'un sèche-cheveux d'aujourd'hui.
Bien sûr, mais si vous avez un sèche-cheveux assez neuf, le
il est sous garantie.
Il est sous garantie.
Garanti un an. Non, il tombe en panne. Vous êtes bien contente d'avoir l'aide.
Vous avez déjà vu un sèche-cheveux qui tombe en panne au bout d'un an?
Alors pour les téléspectateurs, ils comprendront que non. Les auditeurs sauront.
C'est pas le mieux
parce que tu n'as
plus
de cheveux.
C'est la mesure la plus pertinente que ce gouvernement a pris, quinquennat précédent compris.
Ouais. Pas du tout.
Ah bah alors.
C'est intelligent.
Ils veulent quand même ouvrir.
Et ça va dans le sens de l'intérêt national.
C'est l'État nounou.
Mais complètement.
L'État maman.
On voit où sont les agents de l'étranger.
Ça va nous coûter plus cher que ça va.
Non, parce qu'ils visent les artisans, les indépendants.
Bien sûr.
Merci, Paul Lassalle. Tous les jours, 13h45 dans Estelle Midi. Tout de suite, on va rejoindre Pierre Dorian. C'est la Coupe du Monde, évidemment. Et le match de 14h, c'est Angleterre-Iran. Salut, Pierre.
Salut, Estelle. Bienvenue à Doha. Je sais que tu adores le foot. Première grande nation qui entre en lice, l'Angleterre face à l'Iran. Coup d'envoi dans une dizaine de minutes. Alors un match qu'on va bien sûr suivre en direct avec la Dream Team. Manu Amoros, Eric Dimeco et Lionel Charbonnier. Mais on va vous donner aussi toutes les infos sur l'équipe de France de foot après le forfait de Karim Benzema, les dernières infos compo. Bien sûr, tu jouerais comment toi? T'aimerais voir Dembélé? L'équipe très offensive.
Bah oui, Griezmann, Rabiot évidemment, Dembélé, Giroud, Mbappé. Bah pourquoi pas, il peut changer. Ce serait pas la première fois.
On va croiser les doigts. Il y a 4 ans, il avait changé pour le premier match contre l'Australie. Et hop, ensuite, il était revenu à un bon cadenas, bien défensif. Alors,
on avait eu du mal, cela dit, contre l'Australie il y a 4 ans.
Exactement.
On l'oublie, mais pénalty de Griezmann, qui était un peu un pénalty de raccro.
Exactement. En tout cas, nous, on démarre avec Angleterre-Iran. Il y a un autre gros match au programme cet après-midi à 17h. C'est Sénégal-Pays-Bas.
Ouais.
L'intégral foot, c'est jusqu'à 1h du matin. Et bien sûr, Estelle Midi continue sur RMC Story.
Exactement, merci beaucoup Pierre Dorian. Si vous aimez le foot, si vous voulez écouter l'intégrale foot et ce match entre l'Iran et l'Angleterre, vous restez sur RMC et nous on se retrouve, on continue avec Estelle Midi sur RMC Story et sur rmc.fr. A tout de suite.
RMC Estelle Midi.